Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Libre Débat. Donc, comme vient de le dire le générique, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, on vous propose pendant une heure et demie d'être ensemble et d'avoir une émission donc, sur le souvenir et la mémoire des personnes LGBT qui sont des souvenirs qui sont souvent invisibilisés. Avec donc en première partie d'émission, on a des invités en direct du plateau de Radio Galère. On est avec Sacha, Fabrice et Yari. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et voilà, donc, qui sont venus nous parler de la journée du souvenir trans qui va avoir lieu le 20 novembre, comme chaque année. Ça tombera donc, c'est le lundi prochain. Et donc on va passer une demi-heure en plateau à parler de ça, de cette cérémonie et de toutes les questions que ça amène aussi dans l'espace public. Et en deuxième partie, je vous proposerai d'écouter un super docu sonore qui s'appelle « Vous vous souviendrez de moi » et qui raconte un portrait d'une femme de 90 ans, ouvrière, lesbienne, et qui raconte ses souvenirs d'amour, de vie, voilà. Donc on va commencer tout de suite la première partie de cette émission avec nos invités et je vous propose de vous présenter vous-même. Bonjour, merci d'être venu. Vraiment c'est chouette d'avoir réussi à venir aujourd'hui.
Bonjour et merci de nous avoir invités. On est contente d'être là. Moi c'est Sacha. Je suis co-président de l'association Urgence Homophobie. Du coup, ça fait 5 ans que j'y suis à l'association, donc 3 ans de coprésidence. Voilà. Je suis personne trans moi-même. Et du coup, là, avec l'association et avec d'autres militants et d'autres associations, on organise une cérémonie de commémoration d'une femme trans, travailleuse de sexe, qui était assassinée à Marseille en 2005, qui s'appelait Mylène, qui était aussi migrante. Et du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on organise une cérémonie, que ce soit non seulement une cérémonie commémorative, mais que ce soit aussi une cérémonie qui ait une dimension locale. Voilà.
D'accord, merci.
Fabrice, je suis militant LGBT assez largement depuis plusieurs années, puisque je suis moi-même PD, non-binaire, quand Sacha m'a parlé de ce projet, je me suis dit qu'il fallait absolument donner un coup de main puisque la journée du souvenir trans résonne dans nos communautés puisqu'on est souvent touché par des agressions ou par des choses graves qui peuvent arriver dans nos vies, dans l'espace public et qui méritent d'être visibilisées.
Et moi c'est Yari et je donne un petit coup de main à Urgence Homophobie. J'accompagne les personnes en demande d'asile notamment. Merci de me recevoir.
Bah, merci à vous. Et donc on va commencer par expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette journée qu'on appelle aussi le TIDOR. Donc ça c'est en anglais, en français on dit journée du souvenir trans.
Bien sûr, la journée du souvenir trans, du coup, existe depuis plusieurs années partout dans le monde et elle vise notamment à malheureusement compter les décès de la communauté trans qui est particulièrement touchée par les meurtres. Et donc, à cette occasion-là, tous les ans, on dévoile le nombre de personnes trans qui sont assassinées et aussi on se souvient, on commémore du coup les personnes proches qu'on a pu connaître et qui sont parties. Donc c'est un moment lourd et en même temps important parce qu'il il permet de se retrouver tous ensemble et de dire qu'en fait ces agressions, ces meurtres qu'on peut subir et que les personnes trans notamment et particulièrement les femmes trans et particulièrement les travailleuses du sexe et particulièrement lorsqu'elles sont d'origine étrangère puisque ce sont les personnes les plus touchées par ces meurtres elles viennent c'est pas des faits divers en fait, c'est pas des faits divers, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose de politique et que y en a trop et il faut que ça s'arrête et il faut que ce soit pris en compte. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions dans cette journée et c'est pour ça qu'elle est très importante et que ça nous paraissait important de faire exister la mémoire de Mylène à Marseille.
Et tout à l'heure, quand on préparait, vous disiez que c'était pas tous les ans qu'il y avait une cérémonie, donc là il y a...
Bah, à ma connaissance, c'est la première fois quand il y a une cérémonie personnelle. Le plus souvent, les événements qui se déroulent autour de cette journée, ils ont plutôt une dimension collective, dans le sens de la récence des meurtres de l'année passée. On met des chiffres en comparaison. Là, le choix qu'on a fait, on s'est dit que, oui, bien évidemment, on va parler du fait que... la mort de Mylène, c'est pas un cas isolé, c'est pas un fait divers, c'est quelque chose qui peut arriver un peu partout et non seulement à Marseille, mais c'est quand même aussi, pour moi, c'est un point fort de ce choix d'une cérémonie personnalisée, personnelle, un hommage à Mylène, ce que justement ça nous permet d'évoquer et de faire revivre un peu la mémoire, le souvenir de cette femme qu'on connaissait pas du coup, mais on peut imaginer un peu et on peut aussi ensuite parler du fait que il y en a plusieurs des femmes trans travailleuses de sexe d'origine étrangère qui vivent aujourd'hui à Marseille et qui se retrouvent également dans les conditions de vie hyper complexes et hyper compliquées et souvent aussi elles ont exposé particulièrement à des violences transphobes et on ne sait jamais quand est-ce que ça peut aller jusqu'à y avoir mort.
Non. Oui, pour nous, c'était aussi la possibilité de pouvoir faire exister dans le récit un peu collectif, à la fois à Marseille, mais aussi plus largement, puisqu'on pense à d'autres cérémonies qui ont pu avoir lieu. On pense à Vanessa Campos, par exemple, à Paris, mais pas que. Mais voilà, de montrer qu'à la fois cette transphobie, elle est partout, et en même temps, elle doit exister dans l'espace public. Notamment ici rue Mazagran, la commémorer et ça permet aussi de faire revivre des archives, des mémoires. On retrouve, en organisant la cérémonie, on retrouve des proches à Mylène. Ça permet aussi de délier aussi des langues avec une omerta des fois parce que le caractère tellement horrible. Voilà, là on est 18 ans après sa mort et on a envie de redonner vie à Mylène un petit peu lors de ce moment-là.
Peut-être on peut dire pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, à quel moment un peu de donner le rendez-vous.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est une cérémonie publique, c'est une cérémonie militante, où on invite tout le monde à venir.
Oui, tout à fait. Du coup, la cérémonie va se dérouler au 18 rue Mazagran. C'est dans le premier, en face de l'immeuble, du coup, 18 rue Mazagran, parce que c'est dans cet immeuble-là, à l'époque, c'était un hôtel, et du coup, c'est là où Mylène était assassinée. Et voilà, on se retrouve là-bas à 18h.
Oui. Et en fait, le choix aussi de commémorer Mylène, il s'est aussi fait grâce, entre autres, à l'association Mémoire des Sexualités, qui du coup documente beaucoup ce qui se passe et les archives LGBTQI sur Marseille. Et donc, on a retrouvé du coup cette dépêche grâce à leur site internet de la Provence, mm-hmm. qui relatait du coup son assassinat qui était assez cruel avec 47 coups de couteau et des cruels sévices sur son corps, dont on va pas parler plus longuement ici, mais voilà, ça nous paraissait important de le visibiliser.
Et tout à l'heure, vous disiez du coup de cette cérémonie, ça permet aussi de montrer que c'est pas des faits divers, que ça s'inscrit en fait dans une transphobie structurelle, institutionnelle, et que cette journée aussi c'est l'occasion de dénoncer des violences institutionnelles qui sont faites aux personnes trans en exil à Marseille. Je crois que vous, donc tous les trois, vous faites partie vous travaillez sur avec Urgence Homophobie à l'accompagnement des personnes exilées qui viennent à Marseille. Et est-ce que vous pouvez aussi un peu expliquer qu'est-ce que sont les difficultés de ce parcours pour demander l'asile ici?
Waouh, la question est tellement vaste. Je ne sais pas combien d'heures pour répondre à cette question, mais je vais essayer. Il faut, avant que je commence à répondre à cette question, j'aimerais bien dire que malheureusement, on n'a pas pu avoir une personne concernée, une femme trans en demande d'asile qu'on a invitée aujourd'hui. Malheureusement, elle a annulé au dernier moment et on comprend tout à fait son choix parce qu'on s'est rendu compte que la pression qu'elle vit au quotidien, elle est tellement énorme que venir parler à une radio, même si c'est une radio associative et l'écoute est plus que bienveillante, pour elle c'était un truc assez difficile. Et voilà, du coup elle s'est excusée. Malheureusement, on est amené un peu à parler à sa place, ce qu'on essaye de n'y pas faire, de rester à notre place à nous, en tant qu'intervenants, intervenantes qui connaissent pas mal de situations des femmes, notamment des femmes dans cette situation de demande d'asile, situation de travail de sexe, situation d'être étrangère en France, toutes les situations ensemble, bon bref. Et du coup, en rebondissant sur les difficultés principales des personnes trans en demande d'asile en France, j'ai envie de parler de deux choses avant tout. La première chose, c'est que elle rencontre beaucoup de difficultés déjà au niveau d'accès à des dispositifs qui sont conçus pour des demandeurs d'asile. Il y a une dimension qui est très cis hétéronormative et tout ça, parce que non seulement le législateur, mais aussi quasi ensemble des acteurs qui interviennent auprès de ce public, tant au niveau de l'État, des structures mandatées par l'État, que même des associations qui portent un certain nombre de dispositifs, souvent elles ont une vision des migrants, des demandeurs d'asile très hétérocis normative, ce que fait très difficile, du coup ce qui crée énormément de difficultés pour des personnes trans, des personnes non binaires ou même pour des personnes homosexuels ou bisexuels ou pansexuels de se retrouver dans ces dispositifs-là et se protéger des violences qu'elles peuvent subir dans ce cadre-là, tant de la part d'autres demandeurs, demandeuses d'asile que des équipes sociales ou du cadre qui est conçu tel qu'il est conçu. Et c'est pas des problèmes qui doivent être traités à compte de goutte au cas par cas, c'est bien un problème qui est vraiment systémique et on essaie aussi de lutter un peu à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est pas le seul problème qui existe pour ce public-là, parce qu'on a aussi des gros problèmes au niveau d'accès aux soins. même pour les personnes qui sont en demande d'asile, qui peuvent accéder à leur droit à la sécu, qui peuvent avoir la même couverture que des familles ou des personnes modestes en France, de nationalité française ou avec d'autres types de titres de séjour. Mais depuis le mois de novembre 2019, il y avait une réforme à ce niveau-là qui a instauré 3 mois de carence pour accéder à ce dispositif pour les demandeurs d'asile. Et souvent, si on parle des personnes trans, c'est même pas la question sur l'accès, je sais pas, au traitement hormonal, aux programmations des opérations, un truc comme ça. Parce que souvent, des choses auxquelles on pense en premier lieu dès qu'on parle des personnes trans en demande d'asile en France, mais malheureusement, la question de santé pour ce public-là, il est beaucoup plus large que ça, parce que souvent, quand on reçoit des personnes trans qui viennent des pays où le niveau de la transphobie est quand même beaucoup plus élevé qu'en France, même si en France, c'est loin d'être gagné, mais il y a quand même des pays où la situation est beaucoup plus difficile et souvent les personnes trans, elles ont tellement peur d'être jugées, rejetées, subir des violences transphobes dans le milieu médical, ce que elles se trouvent dans une situation d'errance thérapeutique qui peut durer pendant des années, des années, des années. Et très concrètement, quand ces personnes-là arrivent sur le sol français et si à l'association on les reçoit pour un premier entretien pour faire ce qu'on appelle un diagnostic social, et on commence à poser des questions sur leur santé en général, on découvre des profils de santé des personnes qui n'ont jamais vu un médecin ou ça fait plusieurs années qu'elles n'ont pas vu un seul médecin et tout ça, avec un état de santé complètement dégradé et avec une nécessité de mettre en place un vrai parcours de soins. Sauf qu'avec cette histoire de 3 mois, on est amené aussi à expliquer à ces personnes-là pourquoi on ne peut pas commencer là maintenant, pourquoi il y a ces 3 mois de carence. Et les personnes pensent que c'est injuste. Et là, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui est injuste. Et du coup, pour boucler un peu ma réponse, parce que j'ai l'impression que je suis parti un peu trop loin.
Pas du tout, non.
Voilà. Et la troisième question qui se pose et qui me paraît très problématique, et c'est aussi un chantier qu'on essaie d'attaquer à l'association, c'est le droit à l'utilisation de prénoms de choix, d'usage, pour toutes les personnes trans qui sont en demande d'asile en France. Du coup, c'est encore une fois du fait que le CISIDA, qui est le code qui régit tout ce qui concerne les étrangers au niveau de la législation française et tous les actes qui passent avec, c'est tellement hétéro-cis normative qu'à aucun moment, un législateur ne s'est pas posé la question. Et au fait, les personnes trans, du coup, comment elles peuvent faire valoir leur droit à l'utilisation du prénom qu'elles portent dans leur vie quotidienne. Et c'est pas.
Là, tu veux dire pendant qu'elles sont en demande d'asile
Pendant et même quelques temps après. Okay. Parce qu'au fait, à un moment donné, quand on a commencé à attaquer cette question à l'association, on a créé un groupe de travail qui était un peu, bon, pas virtuel, mais on travaillait beaucoup en visio parce que c'était pendant le confinement qu'on a créé ce groupe de travail avec des personnes concernées, hein, des demandeurs d'asile, des réfugiés trans qui souhaitaient un peu changer là-dedans par rapport à tout ça, parce que c'est aussi un point qui reste très injuste, non seulement à leurs yeux, mais aux yeux de tout le monde. Si on y réfléchit un peu, je pense qu'on va se rendre compte vite que c'est pas normal. Et du coup, on a commencé à se poser des questions, comment ça se fait qu'on a dans cette situation, et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour déjà faire entendre nos voix et notamment les voix de ces personnes-là, et comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Je ne peux pas dire qu'on a gagné toute la guerre, mais on a gagné quelques batailles quand même depuis. Mais néanmoins, même si pour les personnes qui sont déjà reconnues réfugiées ou qui bénéficient d'une protection subsidiaire, c'est devenu un peu plus rapide, disons. Là, je parle de Marseille, parce qu'ailleurs, ce n'est pas gagné du tout. Et encore, il y a plusieurs difficultés pour le changement d'état civil, parce que la procédure n'est pas tout à fait la même que pour les Français. Et de l'autre côté, elles ne peuvent pas faire quoi que ce soit en termes de démarche auprès des consulats de leur pays. Du coup, voilà, il y a une procédure qui est assez particulière. Mais là, du coup, si on parle des BPI, du coup, des bénéficiaires d'une protection internationale, que ce soit des réfugiés ou des protections subsidiaires, pardon, il y a quand même quelque chose qui techniquement est possible. Si on parle des demandeurs d'asile, il n'y a rien qui est possible, parce que justement, c'est un vide au niveau législatif. Et du fait d'être un demandeur d'asile, on n'a plus le droit de solliciter, par exemple, le consulat de notre pays d'origine, parce que sinon on risque de perdre le dossier. Mais en même temps, on n'a pas le droit de solliciter les autorités françaises en vue de changement de prénom à l'état civil. Parce que tant que la France n'a pas reconnu la personne en tant que réfugiée, tant que la France n'a pas statué que la personne est vraiment en danger et ce qu'elle peut bénéficier de ce statut, la personne se retrouve un peu entre les deux et il n'y a aucune autorité qui est susceptible de, d'accueillir cette démarche, cette demande. Et vu que la procédure, ça peut durer plusieurs mois, voire quelques années, ben, ça peut être long, les personnes se retrouvent avec l'usage d'un prénom qui n'est pas forcément le sien, mais aussi être exposé assez systématiquement à des violences, à des remarques transphobes, à même des soupçons d'usurpation d'identité, et même pour aller retirer, je sais pas, un recommandé à la poste, surtout s'il s'agit d'une personne qui n'a pas un bon niveau en français. Des fois, il y a directement, c'est non seulement des remarques transphobes qui vont sortir, c'est plutôt, bah, monsieur, et les papiers que vous présentez, c'est à qui? C'est votre sœur? Est-ce que c'est votre cousine? Et là, on perd notre temps à l'association, parce qu'on est obligé d'aller accompagner toutes les personnes pour qu'ils puissent retirer le recommandé, alors que c'est une démarche qui est assez simple. Du coup, voilà, un petit tableau de la situation.
Bah, merci, parce que là, ça quand même... T'as réussi à synthétiser un peu différents problèmes. Peut-être aussi, on pourrait en profiter pour faire un petit point sur l'AME, mmh. puisqu'on a appris cette semaine qu'elle risquait, enfin en tout cas qu'il y avait ce projet mmh. plus qu'avancé oui. de le supprimer.
Et bien sûr.
Vous qui accompagnez des personnes qui ont l'AME, quelles sont un peu les conséquences, et peut-être aussi, est-ce qu'il y a des espoirs que ça, ce projet tombe? On en est où, en fait, exactement?
Mais du coup, donc sur l'aide médicale d'État, donc faut préciser que du coup, c'est quand même un dispositif qui concerne uniquement les personnes qui sont en France sans titre de séjour. Donc, c'est pas forcément toutes les personnes qui peuvent être amenées à être accompagnées, en tout cas par ouais. urgence homophobie, puisqu'on veut qu'il y ait vraiment sur la demande d'asile. Donc
quand,
il y a oui.
quand on est en demande d'asile, on a le droit à la ouais. CMU. Ouais.
Voilà, exactement. Mais par contre, on voit bien que quand on est réfugié en France, on a toutes ces problématiques-là. La problématique de la langue, c'est la même. Les difficultés face à l'administration sont les mêmes. L'impossibilité de prendre des rendez-vous en préfecture. Le nombre de personnes qui sont en situation régulière et qui se retrouvent en situation irrégulière du fait du manque de rendez-vous en préfecture, du fait d'un manque de papier qui repousse à 4 mois le prochain rendez-vous. Et donc, en fait, y a plein de personnes qui sont en situation irrégulière de la faute de l'État français. Et donc ces personnes-là, on va leur interdire l'accès aux soins. Ça, c'est la décision du Sénat qui a été prise hier, il me semble d'ailleurs. C'est super hypocrite, quoi, parce que à la fois, déjà, c'est ultra, ultra violent d'un point de vue humain, individuel, de refuser à quelqu'un l'accès à la santé. Et collectivement, c'est super dangereux. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette loi et ce dispositif avaient été créés en 1999, notamment à la suite de l'épidémie de VIH, puisque si on veut éradiquer les épidémies, eh bien, il faut que tout le monde soit soigné. Pour éradiquer le VIH, on sait que les associations ont un plan pour y mettre fin dès 2030, avec une couverture de 90% de personnes dépistées, 90% de personnes prises en charge, 90% de personnes qui sont sous traitement. Avec cette stratégie-là, on peut mettre fin à l'épidémie de VIH en 2030. Et donc, mettre fin, en fait, à l'aide médicale d'État, eh ben, c'est notamment mettre en danger la fin des épidémies. Je parlais du VIH, on peut parler aussi des hépatites. Et je pense que la pandémie qui nous a touchés il y a 2 ans montre bien à quel point on a besoin de tous et toutes se protéger et protéger les autres. Et c'est juste ça l'enjeu de l'aide médicale d'État, qui par ailleurs ne coûte pas grand-chose à l'État français. Donc, voilà, nous, c'est quelque chose qui nous alerte, qui nous fait peur et qui mérite en tout cas d'être combattu ardemment pour pas que ça passe à l'Assemblée nationale, pour pas qu'on mette en danger la vie directement des réfugiés, mais aussi de plein d'autres personnes.
Et peut-être, je fais un peu les choses à l'envers, je suis désolée, mais peut-être ça vaut le coup aussi de prendre un peu le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est urgence homophobie et c'est quoi que vous faites au quotidien et comment on peut faire pour vous joindre quand on a besoin de conseils ou d'accompagnement.
Alors, Urgence homophobie, c'est une association qui existe depuis 6 ans, qui intervient auprès des personnes LGBTQIA+, en situation de migration. Pour la plupart du temps, ce sont des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais on intervient aussi sur plein d'autres situations. Il s'agit de l'accompagnement socio-juridique, de l'accompagnement global social. On essaie de développer plusieurs axes intéressants, du coup, entre autres l'accompagnement des personnes trans dans les situations de demande d'asile, avec la médiation en santé. Et pour nous joindre, on est quasiment sur tous les réseaux sociaux. Bientôt, on va être présent sur le centre LGBT à Marseille, qui va être
rue du Chevalier Rose.
Ouais, au 21, il me semble.
Vous allez faire des permanences là-bas ?
Alors, là pour l'instant, en tête, je ne sais pas comment ça va s'articuler. On aura beaucoup plus d'informations d'ici début décembre. Mais on va être de toute manière, on va être là et on va travailler, on va accueillir le public avec d'autres associations, parce que c'est important aussi d'avoir un point d'accès bien accessible, notamment pour le public qui est arrivé récemment à Marseille.
Eh ben, merci à tous les trois d'être venus et puis d'avoir partagé toutes ces infos. Peut-être on peut conclure. Yari, tu peux peut-être nous redire un peu les dates, le rendez-vous de lundi pour la Tudor.
Oui, non, bon, à 18h, vous avez entendu, je n'ai pas parlé beaucoup, mais bon, je voulais juste dire que la personne qui devait venir, on l'accompagne dans sa trajectoire. Et juste pour lui faire un clin d'œil, on ne sait pas les trajectoires, justement, les violences que tu cumules, les oppressions que tu as cumulées, qui empêchent d'être partout et de lutter pour tes droits, puisque malheureusement, le quotidien, tes urgences à toi, vitales, sont plus importantes. Et voilà, c'est dommage, mais on est. Voilà.
Mais on est là pour toi.
Oui.
Ouais, on est là pour toi.
Et voilà, et on sera nombreux, nombreuses lundi 20 novembre, 18 rue Mazagran. Je crois que tu as choisi une chanson pour la fin de ce premier plateau.
Oui, bon, j'espère que ça va plaire, mais en fait, même si c'est douloureux ce moment, c'est parce qu'elle est pleine de joie et elle appelle pour moi. à qu'on soit des millions vis-à-vis de la situation aussi politique ou autre que nous vivons, le stress que ça peut générer. Je trouve qu'elle apporte un peu de légèreté malgré les événements tragiques dont on parle en ce moment.
Et du coup, c'est quoi le titre là ?
Andar al millón, c'est on va être des millions pour moi. Et c'est une Mexicaine, elle s'appelle René Gouste. Voilà. J'espère que ça va plaire.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va écouter ça. Et puis, après, on se retrouve plus en direct pour écouter le documentaire sonore. Vous vous souviendrez de moi.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Toujours sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Libre Débat. Et maintenant, je vous propose d'écouter Vous vous souviendrez de moi, un documentaire qui, à l'origine, est en 4 épisodes. Ils sont rassemblés ici, donc ça fait 52 minutes. Je vous souhaite une bonne écoute, un beau moment d'écoute avec Bernadette. C'est un documentaire de Lucille Maria Bouillant qui a été récompensé par le Outdoor 2023. Et c'est un beau portrait de Bernadette, l'ancienne voisine de la réalisatrice, âgée de 87 ans, qui raconte ses souvenirs de vie d'ouvrière, de lesbienne dans les années 70. Une voix minoritaire qu'on n'entend pas souvent, moins des grandes figures médiatiques ou militantes. Elle raconte son époque, son chemin de vie. Et je vous souhaite donc une bonne écoute.
En 2013, j'emménage dans un studio, dans le 20e arrondissement parisien. Depuis, j'ai déménagé 4 ou 5 fois. L'immeuble me plaît beaucoup. Il est en briques rouges, c'est ma couleur préférée. et il fait partie de cet ensemble de constructions qui bordent la petite ceinture. Autrefois, à cet endroit, c'était la zone, un bidonville gigantesque qui entourait Paris. Aujourd'hui, on les appelle camps ou campements, et nos autorités s'évertuent à les démanteler. On dirait qu'ils cherchent à effacer, à bannir, les personnes qui tentent d'y vivre, en saccageant leurs tentes ou en plaçant d'énormes blocs de pierre pour qu'aucun véhicule ne puisse s'y poser. Mon appartement est au 8e étage, le dernier, avec ascenseur. Je vis alors à Paris depuis 4 ans. J'en ai déjà pris tous les travers. Je cours partout, je ne salue personne, je hais les pigeons et j'ignore mes voisins. Ma voisine notamment.
Elle est gentille, ma petite Margaret.
Je la croise de temps en temps sur le palier ou dans l'ascenseur. Elle est pimpante, me dit qu'elle a 83 ans.
Ils sont très reconnaissants parce que c'est moi qui leur ai dit que madame, je vous l'ai dit, oui. Que madame Ray s'en allait, c'était une...
Elle me pose beaucoup de questions sans forcément écouter les réponses et repart. Au début de l'année 2014, poussée par mon amie, je frappe à sa porte. Elle nous reçoit les bras grands ouverts, le porte-clés à la main. Elle s'appelle Bernadette.
Je ne sais pas, puis quand vous passiez, vous disiez à peine bonjour. Moi, je ne sais pas plus. J'ai changé à ce point-là.
J'y retourne seule un peu plus tard. Elle me fait faire le tour de la propriétaire. C'est le même appartement que moi, ou presque. Il est aménagé depuis plus longtemps. Les meubles sont lourds. Il y a une minuscule salle d'eau, une petite cuisine tout en longueur, et dans la pièce principale, l'unique pièce, il y a au centre une table ronde avec des napperons dessus. Il y a des vitrines avec des poupées et un canapé en velours vert. Elle me dit assez rapidement qu'elles avaient acheté cet appartement à deux, avec son amie. Il fait environ 32 mètres carrés, le lit est caché dans un placard. Elles ont tout bien pensé. Yvonne est morte en 2010. Bernadette va la voir tous les deux jours, en face, au cimetière de Belleville. D'un côté de la tombe de granit rose, il y a gravé le nom d'Yvonne. De l'autre, celui de Bernadette, sans les dates. Elle l'attend. Sur la stèle, les paroles d'une chanson, « Ni toi, ni moi », d'une certaine Mick Michel, dont je n'avais jamais entendu parler avant Bernadette. Mick Michel, elle aussi, est morte, à la fin du printemps 2019. Quelques semaines avant, j'étais retournée voir Bernadette. J'avais commencé à m'éloigner de Paris. Je m'étais installée à Saint-Denis, autre lieu banni. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas bu de Porto ensemble. Elle entendait un peu moins qu'avant, semblait un peu plus triste, toujours seule. Je venais lui dire que j'allais quitter Paris, définitivement, et que je voulais partager avec d'autres, vous, cette rencontre, cette histoire, sa voix. Je l'ai donc enregistrée. Cette parole, on l'entend peu. C'est l'histoire d'une femme, ouvrière, qui a quitté de nuit, en train, une ville de Charente, ses parents, son mari, son usine, pour vivre sa vie durant aux côtés de son ami, eux. C'est sa voix qui nous raconte ça. Une voix ponctuée de coups sur la table et de claques sur les cuisses. Une voix dont les mots gouailleurs disent tout l'amour qu'elle porte jusque dans la tombe à sa compagne de vie. Comme elle le dit,
« C'est tout un roman, ma vie. »
Allô, Bernadette ?
Vous êtes dans le quartier ?
Les souvenirs ont fait leur nid dans chaque quartier.
Mon ancienne voisine vit depuis 1967 dans un appartement de 30 mètres carrés au 8e étage d'un immeuble de briques rouges dans le 20e arrondissement de Paris. Elle m'a offert du Porto, m'a fait découvrir Mick Michel et m'a montré l'album photo qu'elle veut avoir auprès d'elle dans sa tombe où depuis plus de 10 ans est enterrée sa compagne. Ceci est l'histoire de sa vie.
Si je viens vers 17h, ça vous convient ?
Oui, pas de problème, on pourra essayer que je suis là. Je sors surtout le matin faire mes courses, mais tantôt je regarde mes films, et puis après je me branche sur ma petite tablette. C'est rare que je sorte l'après-midi. Oui, je vais le marquer parce que maintenant j'ai une petite perte de mémoire avec l'âge. Hein.
Ça me rappelle un jour d'amour, comme le temps passe.
Voilà, t'as une pote plein, hein, Sandra, chaque un petit truc. Voilà.
Vous préférez café ou chocolat ?
Oh, j'aime les deux. Vous prenez ce que vous voulez, moi j'aime tout. Mais vous savez, je suis très contrariée parce que vous savez que quand on vieillit, je le savais, mais comme ça, j'ai perdu ce qu'on appelle la sapidité.
C'est quoi ?
La sapidité, vous savez pas ce que c'est la sapidité ? Je vous apprends quelque chose.
On perd le goût des choses.
Vous sentez plus rien ?
Non, je ne sens pas le goût des aliments. Je ne le sens plus. Et depuis que j'ai 85 ans, 86, j'en ai 87 maintenant. Je mets du sel, je mets du poivre et vas-y, vas-y, vas-y. Et moi qui étais une mangeuse, je ne trouve plus le goût. Je mange, plus rien n'a du goût. Plus rien. Pourtant, je m'achète des bonnes choses, vous savez. Ah oui, comme quand j'étais avec Yvonne.
Ah, oh, c'est pas marrant de vieillir, croyez-moi. Et pourtant, bon, c'est vrai que comparé à certaines personnes, j'ai une dame à côté qui a 84 ans, qui a été 3-4 fois à l'hôpital, qui est tombée toute seule, s'est fendue la tête, il a fallu que j'appelle les pompiers un dimanche et tout, qu'il n'y avait personne. Oui, ça fait plusieurs fois, elle est tombée même à Carrefour, là-bas. Hein. Et ben, Maria me dit, regardez comment vous êtes, ne vous plaignez pas. Ben, j'ai dit oui, mais il y a des fois, je pense passer par la fenêtre, moi. Pourtant, j'étais quelqu'un, vous savez, qui avait le moral, hein, qui avait le moral, mais... Vraiment, c'est pas marrant de vieillir. Quand il faut appeler... Moi, je me débrouillais toute seule. C'est moi qui m'occupais de tous les papiers et tout. Mais avec toute cette modernité, maintenant, je fais souvent appel à Maria. Hein. Alors, c'est la honte. C'est la honte, moi, je vous le dis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on boit ? Il n'y a plus rien qui va. Oh là 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 là. Horrible.
Merci, Bernadette.
Je vous en prie. Je vais vous faire voir quelques photos, ça vous dérange ?
Ah, je veux bien, hein, avec plaisir. Avec
parce que
plaisir.
J'ose pas, parce que je sais que c'est un peu embêtant.
Ah, moi j'adore.
De baratiner les gens avec les photos. Je vais vous dire, je me suis fait... Vous savez que moi, vous voyez que je suis directe, hein. Bon. Je suis... Ça, j'avais fait un petit almanach à maman. Pas un almanach, un petit album. Parce que maintenant, je suis comme Madame Jullery, je comprends un mot pour un autre.
C'est qui, Madame Jullery ?
Madame Jullery, c'est ma voisine d'en face qui est décédée il y a longtemps. Elle nous parlait de l'aspirateur au lieu de l'ascenseur. Mais moi, maintenant, j'arrive à être pareil. J'avais fait ça pour maman quand elle est rentrée à la maison de retraite. Mmh. Hein, parce qu'elle ne voulait pas venir me déranger à Paris. Elle a dit, je veux rentrer à la maison de retraite. Moi, je n'aurais jamais proposé. Mais elle a voulu. Bon, parce qu'elle avait peur dans sa maison après. Mmh. À Sainte, pourtant, je l'avais sortie de la campagne. Et alors, je lui avais préparé ça, vous croyez qu'elle l'a regardé quand elle est à la maison de retraite ? Alors moi, je l'ai pris pour moi, mais j'ai déjà dit à la nièce Yvonne, j'ai dit ça, tu me le mets dans mon cercueil. Hein. Alors je vais vous faire un petit condensé. D'accord. Ah ben vous allez tout voir. Tiens, regardez mon père. Alors là, regardez, là j'avais peut-être 10 ans. Hein ? Là c'est Yvonne, elle en avait peut-être 4 ans, j'en sais rien.
Oh là là, elle avait les yeux tout bleus ?
Ah oui, des beaux yeux bleus. Alors là, nous voilà, on était juste rendus à Paris, mais là, c'est, on était en vacances à Sainte. Vous voyez, là, on devait avoir 23 ans et elle, 24 ans. Quoi. Vous avez vu comme elle est menue ?
Et je vais revenir un petit peu à Sainte. Vous avez commencé à travailler à quel âge ?
14 ans.
14 ans.
Ah oui ? Je travaillais dans l'alimentation. J'étais épicière, quoi. Non, le commerce, c'est pas mon truc, hein.
Ouais.
Ah non, moi, j'étais une vraie fille d'usine, moi. De toute façon, on m'a offert de faire... Mes parents me disaient, est-ce que tu veux faire dactylo ? Il y en avait à chier partout, excusez-moi, les dactylos. Il y en avait partout là-bas. Mais ça me disait rien, moi. On n'a pas su me dire, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Mes parents étaient des gens simples. Bon, je sais même pas s'ils avaient leur certificat d'études, d'ailleurs. Mais... on m'a pas mis dans une voie qui aurait pu m'intéresser. Hein? Donc, on m'a mis vendeuse. Et encore, c'est mon oncle qui m'a trouvé la place, alors. Parce que lui, il connaissait tout ça, alors. Et c'est là que j'ai connu mon mari, parce qu'il y avait ma belle-sœur, ma future belle-sœur, travaillait avec moi. Et puis après, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai tendance à me répéter, il y avait une usine de chaussures. Il y avait peut-être 100 ou 150 ouvriers qui travaillaient là-dedans, à la chaîne. Hein? La seule de l'usine, de Sainte. Et comme ma mère faisait le ménage chez la patronne, à qui l'usine appartenait, Elle m'a eu à ma place. Donc je suis rentrée à 17 ans jusqu'à ce que je fiche le camp à Paris. Et vous savez, c'est rigolo, la destinée des gens. Ma patronne m'avait mis au vernissage au pistolet sur les chaussures. Mais ça m'a rendue malade. Au moins 2-3 ans, je suis devenue maigre, maigre. C'était ça. J'étais intoxiquée parce qu'il n'y avait pas des aspirateurs comme il y a maintenant. Et c'est comme ça qu'Yvonne est rentrée, parce que j'ai refusé de le faire.
quand j'étais une bonne ouvrière, et puis que ma mère lui faisait le ménage, elle n'allait pas me faire virer. Parce que quand je suis partie à Paris, elle a quand même dit à ma mère, la patronne, c'est une ouvrière que je ne remplacerai jamais. Mmh. Bon, parce que j'étais une travailleuse, sérieuse. Et alors Yvonne, elle est donc remplie pour me remplacer. Ben, l'autre, elle a dû dire, si j'avais su, je l'aurais embauché, parce qu'on est perdues toutes les deux. C'est vrai, ce que je vous dis en plus. Unique, hein, unique, hein. Et alors Yvonne débarque devant moi, il y avait 6 mois que j'étais mariée, moi. Hein. Ah ouais. Alors bon, je lui ai tapé dans l'œil, forcément. Je sais pas pourquoi. Elle m'a pas lâché, elle m'a harcelé pendant... Vous savez, moi, ça me faisait suer de m'en aller, mes parents et tout, vous rendez compte. J'ai patienté, elle a patienté 2 ans, hein. J'ai résisté 2 ans. Mmh. Ouais. Ouais. Alors là, vous voyez, c'est quand on se fréquentait au début. Là, tout au début, oui, à Sainte, là, les jours de la foire. Il y avait la foire tous les mois.
Et pourquoi pendant 2 ans, vous avez résisté?
Bah, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Bon, je sortais déjà avec elle, j'avais encore mon mari. Mais mon mari, figurez-vous, il s'en va en déplacement, il était menuisier. Il s'en va en déplacement dans les Pyrénées. Et bien, comme il est parti en déplacement, nous, on a fait les valises. Enfin, on n'avait pas de valises. Hein. Je suis partie, j'avais au moins 3-4 slips sur moi. Et ainsi de suite, peut-être 2 jupes, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. On est parti le 1er décembre. Hein. Le 1er décembre 54. Hein. Et alors, ben, il était parti en déplacement. Moi, quand il est revenu, c'était... L'oiseau était envolé. Incroyable.
Incroyable.
Incroyable, hein.
Incroyable.
Mais mes parents étaient sur le même palier que moi. Hein. On est partis, le train il devait être vers 9h30, 10h. Je suis partie, mes parents étaient là. Hein.
Et vous leur avez rien dit?
Non. J'aurais écrit une lettre quelques jours après que je ne pouvais pas faire autrement et tout. Mais ils ne m'ont jamais fait de réflexion, mes parents. Ils me connaissaient. S'ils avaient fait la moindre réflexion, ils ne m'auraient jamais revue. Et ils ont accueilli Yvonne et tout. Et elle était tenace, hein.
Ouais.
Mais moi, c'était tout un truc, vous savez, j'étais une fille sérieuse, j'ai jamais flirté, mais j'aimais pas ça. Et j'ai dit, oh là là, mais quel scandale ça va faire, mais quel scandale, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, elle s'en foutait du scandale, parce que son père lui courait derrière, elle sortait par la fenêtre pour aller au bal, et son père dit, peut-être toujours me courir derrière, moi je connais les petites avenues, les petites rues de Sainte, tu me trouveras pas tout de suite. Mais c'est vrai, c'était un numéro, hein. Plus que moi. Vous voyez, ben je vais mettre un autre coup de Bordeaux, moi. Je vous en mets un petit coup.
Avec plaisir.
Il est bon, hein?
Oui, il est excellent.
Il est délicieux. Vous voulez des petits glaçons?
Non, merci.
Non?
Ça ira.
Oui. Ben voilà, vous voyez ma vie, comment qu'elle est. Et je regrette pas, hein?
Allez, vas-y, c'est du bonheur. Allez, vas-y, avec ton cœur. Allez, vas-y, sans hésiter. Et bonne chance.
C'est une destinée, vous savez. Je crois qu'on n'y peut rien. Hein.
Vous savez pourquoi j'ai peur de l'eau? J'avais dit, maman, je vais prendre un nager, je vais prendre un nager. Alors, il n'y avait pas de piscine à l'époque à Sainte. C'était dans la Charente. Hein. Alors, on m'attache au bout de la perche. Des jeunes, moi j'avais peut-être 9-10 ans à l'époque, des jeunes qui étaient là en train de faire les andouilles, qui avaient peut-être 15-16 ans, l'autre il pousse, il me tombe sur la tête, je boite une de ses tasses en étant attachée, je suis sortie de là-dedans, j'étais au moins 50 ans dans l'eau, je voulais même pas aller dans la mer. Hein. Après j'allais à la piscine avec la sœur de mon futur mari, mais vous savez, là chez les neveux Haven dans l'île de Léron, dans une piscine, mais tu peux y aller, il y a pied, tu peux me faire confiance, il y a pied. Alors, bon, j'ai été, comme je savais qu'il y avait pied, je nageote. Mais Yvonne me dit, tu sais nager. Je dis, non, ne crois pas ça, moi j'ai la trouille. Hein. Ouais. Et quand j'étais, quand j'étais petite, c'était avant la guerre, j'étais jeune. Hein. On allait à Royan, mon père était au chemin de fer, on ne payait pas le train. Il m'avait acheté un petit bateau avec une voile. Le bateau s'est détaché, ma pauvre, j'ai voulu le rattraper. J'ai bu une tasse, ça fait 2 fois que j'ai failli me noyer. Alors, je dis jamais 203. Hein. Non.
Mon ancienne voisine vit depuis 1967 dans un appartement au 8e étage d'un immeuble de briques rouges dans le 20e arrondissement de Paris. Elle m'a offert du Porto, m'a fait découvrir Mick Michel
et m'a montré l'album photo qu'elle veut avoir auprès d'elle dans sa tombe, où depuis plus de 10 ans est enterrée sa compagne. Ceci est l'histoire de sa vie.
Hein ?
Yvonne, elle savait nager ?
Ah non. Mmh. Oh non, non, non. Non, non. Elle aimait beaucoup le soleil parce qu'elle a été longtemps dans l'île de Léron en déplacement avec ses frères et son père, qui étaient partis faire des fûts en ciment. Mmh. Alors son père, là, il paraît que tous les jours, il ramenait des bouteilles, puis il buvait bien lui aussi. Mmh. Voilà, alors elle est restée 2 ans dans l'île de Léron. Alors dans l'île de Léron, elle a eu plein de petites amies. Mmh. Eux, des Parisiennes qui étaient encore restées de la guerre, qui étaient là réfugiées. Il y en a une a voulu divorcer pour elle. Elle a dit, moi, je ne veux pas m'en aller avec une femme qui a 2 enfants. Mmh. Bon, alors voilà. Mmh. Elle est tombée sur moi. Après. Parce qu'Yvonne, elle avait une vie olé-olé. Hein. Les garçons, je ne pense pas qu'elle ait couché avec, mais a beaucoup flirté. Et les filles, hein, elle était... Je dis, pourquoi tu fréquentais ces morues? Alors elle dit, parce qu'elles sont très, très distrayantes, très... Ah ben, je dis, d'accord. Mais moi, j'étais une fille, j'aime pas le flirt. J'ai eu mon mari... Je ne couchais même pas avec lui avant de me marier. Hein, voyez. Et quand elle m'a connue, elle est rentrée dans le rang. Ça a été terminé, les fantaisies. Jusqu'à ce qu'elle meure, de 54 jusqu'à 2010. Quoi.
Oh, elle est magnifique cette photo. Vous étiez superbe. Hein.
Alors voilà Yvonne avant qu'on vienne à Paris avec moi. Là.
Toutes les deux. C'est vrai qu'elle était toute
avant, petite. Avant, elle faisait 40 kilos, 42 kilos, ma pauvre.
C'était à Sainte, hein.
Oui, oui, c'est à Sainte, oui, c'est environ 1 an avant qu'on s'en aille.
Et pourquoi Paris ?
Ben, c'est moi qui ai voulu, elle voulait aller à Marseille. Parce que ses parents, ils avaient fait une station à Marseille avant de venir à Sainte. Mmh. Ah, j'ai dit non, moi, ça sera Paris, il n'y aura rien. Mmh. Alors là, mon premier costume, je vous dis pas, hein, je bichais un peu. Hein. Attention, hein.
Là, c'était l'arrivée, hein.
Hein ?
Là, c'était à l'arrivée.
Ah, ouais, peut-être 1 an après qu'on était là, quoi. Mmh. Mmh. Paris, si vous saviez la toilette qu'on a fait.
C'est vrai.
Ben, il n'y avait rien en Charente, là-bas. Mmh. C'était après la guerre. Mmh. Il n'y avait rien du tout. Nous, on est arrivés là, c'était l'Amérique pour nous. Mmh. L'Amérique. Mmh. Puis en plus, on gagnait bien notre vie par rapport à là-bas. Mmh. Vous rendez compte ? On gagnait peut-être 3 fois ce qu'on gagnait là-bas. Mmh. Il n'y avait même pas le SMIC à l'époque, hein, là-bas. Non, non. Mmh. Hein ? Alors, celle-là, c'était une robe manteau. Oh, je vous dis pas. Oh, on nous regardait dans la rue de Belleville. Hein. Là, c'était Vovonne, ça. Oui, eh ben, elle a eu un moment où, au début qu'on était à Paris, elle était en robe. Mais du jour où elle a mis des pantalons, peut-être, est-ce que c'est dans les années 60 ? C'est possible ? Après, les robes, ça a été terminé. Mais elle a eu des très belles robes. Elle a eu un tailleur une fois. Oh là là, qu'est-ce qu'il était beau. Ah là, on était au début, quand on était à Paris, on était à l'hôtel.
D'accord.
C'est dans l'hôtel, ça.
C'est tout un roman, ma vie. Figurez-vous qu'on a été à l'hôtel pendant 13 ans. Quand on est au métro Pyrénées, la première à gauche, c'est la rue Pierre. Bon, il y avait une grande usine de caoutchouc dans le temps et tout là-dedans. 13 ans d'hôtel. Alors, au départ, on est resté 13 ans à l'hôtel, mais en étage, au 5e étage. Mais au début, on était au premier. On était juste arrivés, quoi. J'ouvre la fenêtre le matin, qu'est-ce que je vois sur le trottoir d'en face ? Ma mère et mon mari. Mais puisque vous êtes là, vous n'avez qu'à monter.
Et alors, comment ça s'est passé ?
Ben, comment ça s'est passé ? Je dis, c'était pas la peine de vous déranger. Alors, ma mère a dit, quand même, vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre, qu'a dit à Yves. C'est tout un roman.
Mais ils n'ont pas fait de scandale.
Ah non, ils n'ont pas fait de scandale, pas du tout, du tout. Non, non, non.
Et votre mari, qu'est-ce qu'il a dit ?
Ben, il est reparti comme il était venu, quoi, mais c'est tout. Hein. C'est bizarre, la vie, hein. Des fois, j'y pense, c'est bizarre. Alors, voyez ce petit bouquin, là, ben, il va venir dans mon... Là, voyez, il y a tout un tas de photos d'Yvonne plus jeune et tout, là. Les photos d'identité.
Et avant, Yvonne, vous aviez déjà vu des femmes ensemble ?
Non, ça me... Non, 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 non. Non. Quand elle est arrivée à l'usine, Yvonne, elle travaillait en face de moi. Il y avait la chaîne qui nous séparait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de femmes qui vont ensemble ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'elle était connue dans la ville. Hein.
Et ça vous a donné des idées ? Ça vous faisait envie ?
J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. C'est bizarre, la destinée. Hein.
Vous avez été courageuse, Bernadette.
Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et une fois à Paris, L'homosexualité, c'était bien vu, ça? Il n'y a pas de problème?
Ah, non, il n'y a pas de problème. On a travaillé tout le temps, toutes les deux, chez Citroën et partout, ils le savaient, hein, qu'on vivait toutes les deux. Non, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Hein. Okay. Jamais, non. Non.
Les gens, ils savaient que vous viviez ensemble?
Ah oui, oui.
Que vous étiez
ensemble? Ah oui, bien sûr. Mais dans la maison, et à l'hôtel aussi. On est resté 13 ans à l'hôtel quand même. Hein.
Et vous avez rencontré d'autres personnes homosexuelles?
Oui, on était très amis avec deux femmes qui travaillaient chez Citroën, mm-hmm. dont une avait 30 ans de plus que l'autre.
Okay.
Elle avait un fils, elle venait chez nous manger et tout. Oui. Mm. Oui. Ouais.
Parce que vous savez, à notre époque, c'était pas évident.
Hein. Ouais, j'imagine.
Les homosexuels, moi j'entendais... C'est drôle parce que les femmes, à notre époque, les femmes, on en entendait moins parler que les hommes. Moi, je sais que papa, qui travaillait au chemin de fer, il y avait des homosexuels, il y avait deux jumeaux, qui étaient très chics, je m'en rappelle, hein, qui étaient mariés, et l'autre qui travaillait avec papa, au chemin de fer, tous les deux, il allait même bricoler chez lui, mon père. Mais il était large d'esprit, mon père. Il allait bricoler chez lui parce que mon père était un bon bricoleur. Bon. Et il y en avait un autre sur les quais de... qui habitait à la campagne, mais sur les quais de la Charente, là, la rivière. Il avait plusieurs enfants, une famille nombreuse, il était homo aussi. Et on avait un gros marchand de cycles et de tout un tas d'affaires qui habitait dans la rue à Yvonne, rue d'Arc de Triomphe, à Sainte. C'était aussi un homo. Mais on entendait surtout parler des... C'est toujours les hommes qu'on a eu en point de mire, et les femmes pas, parce qu'elles sont plus discrètes, je sais pas. Par contre, moi, je suis complètement contre les enfants. Hein. Ça, on a été fait comme ça, la Terre nous a voulu comme ça, mais moi, je suis contre les enfants, parce que toutes ces manipulations génétiques, bientôt, on aura les enfants dans les tubes, hein, on se fait inséminer comme les vaches. Non, moi, je suis pas... Vous voyez, j'aurais voulu un enfant... Eh bien, comme ma mère est de l'assistance publique, peut-être que j'en aurais adopté un. Mais pour aller me faire Yvonne enceinte, et puis moi, j'aurais pas voulu que je sois enceinte, puis moi, j'aurais pas voulu qu'elle soit enceinte non plus. Non, ils prennent de sperme à n'importe qui, ils vont voir des homos, ils disent, moi, tu vas me faire un enfant. J'en vois plein des émissions comme ça, moi. Moi, je suis contre. Non. On est comme on est, ben, il faut le supporter comme ça, puis c'est tout. Un enfant adopté, peut-être, mais autrement, non. Non. Bon, alors, je reviens pour mes petites... Oh là là, mais elles ont l'air...
Et quand est-ce que vous avez dû divorcer après, peut-être?
Oui, mon mari s'est occupé de faire les papiers de divorce. Hein.
Et après, vous aviez plus de contact avec lui?
Non. Une fois, je l'ai rencontré, mais on s'est causé à Sainte, là-bas. Il s'est remarié. Je sais pas si c'est vrai. J'avais entendu dire qu'il était mort, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il paraît qu'il avait eu plein d'enfants. Mais avec moi, il n'en avait pas, alors bon. Hein?
Et avoir des enfants, c'est un truc que vous voulez?
Ben, vous savez, c'est bizarre. Moi, mon père, il ne voulait pas d'enfants. Il était néné de 4. Mmh. Il avait sûrement compris. Il n'en voulait pas. Mais moi, ma mère, elle était de l'assistance publique. Elle a eu de la chance que ma grand-mère, que j'appelle ma grand-mère, la prenne toute petite. Et elle l'a toujours gardée jusqu'à ce qu'elle se marie. Mmh. Je suis même née chez la dame que j'appelle ma grand-mère.
D'accord.
Oui. Non, c'était des gens bien comme il faut. Des gens de la campagne bien comme il faut. Qui avaient des vaches, des chevaux, tout. Après, ils ont vendu les chevaux. Pendant la guerre, on leur a réquisitionné les chevaux pour l'armée. Et mon grand-père était obligé d'acheter deux bœufs. J'en ai des souvenirs là-dedans, moi. Alors, bon, qu'est-ce que c'était en train de vous dire à côté de ça?
C'était votre père ne voulait pas d'enfants.
Oui, il ne voulait pas d'enfants. Ouais. Il était né des quatre, il ne voulait pas. Ma mère a dit, moi, je n'ai pas de famille. Et encore, ma mère, elle a eu de la chance parce que ma grand-mère, que j'appelle ma grand-mère, l'a prise toute petite, elle l'a gardée jusqu'au mariage. Hein. Et elle n'avait pas d'enfant à l'époque, elle a eu une fille et un garçon après. C'est-à-dire, ma mère était là avant. Bon. Alors, elle aimait beaucoup ma mère. Hein. D'abord, je suis née chez ma grand-mère, que j'appelle. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'en veux dire.
Et donc, votre mère, elle voulait un enfant?
Hein. Ma mère voulait, oui, elle a dit, moi, je suis de l'assistance publique, je veux une famille. Alors, mon père a fait un enfant, mais il n'en voulait pas, lui. Il n'en voulait pas. Alors il avait dit à maman, moi je voudrais une fille costaude. Oui, je suis son porte-craché, alors forcément, il voulait une fille costaude.
Et vous, est-ce que vous auriez voulu des enfants?
Moi, non. Non plus. Yvonne aimait les enfants. Mais non, ça ne me disait rien, les enfants, moi. Non. J'avais la trouille de tomber enceinte. Hein. Ouais. Je ne prenais pas de pilule ni rien du tout, moi. Non. Mais enfin, on avait des hommes dans le temps qui faisaient attention.
Ouais.
Pas tous. Moi, mon père fait très attention. Il sautait en marche, comme on dit, hein. Mais il ne voulait pas d'enfants. Et moi, mon mari, aussi sauter en marche. Bon. Mais alors moi, je vais vous dire, je ne pourrais pas parce que je suis, mais je ne suis peut-être pas unique, mais je suis un peu, je vais vous faire rire parce que c'est un truc de Charente, c'est un mot charentais. Je suis très zirouze.
C'est-à-dire ?
Zirouze, ça veut dire à cheval sur, ben, sur les choses sexuelles. Vous voyez, zéro, c'est un peu méfiante, quoi.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Je ne veux pas me laisser aller avec n'importe qui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends.
Et c'est pour ça, moi, je ne pourrais pas aller avec n'importe qui.
Et
peut-être
alors...
que je ne suis pas très sexuelle, parce que, vous voyez, peut-être j'aurais pu me trouver une autre amie, ou n'importe. Mais non, même pas, non.
Mais vous avez quand même préféré Yvonne...
J'ai préféré vivre avec Yvonne qu'avec mon mari, bien sûr. Mais elle, elle en a eu des filles, hein. Attention. Elle avait beaucoup flirté avec les hommes, mais je pense pas... Et hein, le docteur, l'autre fois qu'il connaît ma vie, dit, vous lui avez jamais posé la question si elle avait jamais été au bout avec les hommes. J'ai dit, non, ça ne me regarde pas. Je préfère rester dans le doute. Mais des filles, elle en a eu. Ouais, ouais. Parce que les trois quarts des hommes... Bon, moi, j'en ai eu qu'un. Mais les trois... Mais moi, j'avais un oncle, par contre, il avait beaucoup d'amis. Il en avait beaucoup, même qu'il était marié. Ils savaient travailler les femmes, comme on dit. Mais les trois quarts des hommes, maintenant les jeunes peut-être, mais ils ne savaient pas travailler, faire du plaisir aux femmes, ils ne le savaient pas. Mais non. Mais non. Mais non.
Je suis d'accord.
Hein?
Je suis d'accord.
Bon. Alors maintenant, je ne sais pas, avec les études qu'ils font et tout, et peut-être que ça s'est arrangé, mais franchement, hein? Mais, non, mais c'est vrai. Écoutez, hein?
Ah, vous,
ah, vous en souviendrez de moi. Hein.
Oui, il n'y a pas de problème.
N'oublie pas, mon amour. N'oublie pas les beaux jours. N'oublie pas le passé. Et surtout, n'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas le mois d'août.
Si je voulais dire, oui, alors je vais emmener Christina et Maria manger dans un restaurant un peu plus chic qu'ici, rue de Turenne. Et alors là, il y a un garçon qu'elle connaît, un serveur.
D'accord.
Et alors moi, il m'appelle Bernadette. J'ai dit, mais vous m'appelez Bernadette, mais vous avez même pas entendu Maria m'appeler Bernadette. Mais j'ai dit, je vous ai vu chez elle, j'étais chez elle, je ne m'en rappelais plus. J'ai dit, comment ça se fait qu'il m'appelle Bernadette? Il s'en rappelait? J'ai marqué, sans doute, je l'ai marqué, faut croire, avec mon bagou.
Mon ancienne voisine vit depuis 1967 dans un appartement au 8e étage d'un immeuble de briques rouges dans le 20e arrondissement de Paris. Elle m'a offert du Porto, m'a fait découvrir Mick Michel et m'a montré l'album photo qu'elle veut avoir auprès d'elle dans sa tombe, où depuis plus de 10 ans est enterrée sa compagne. Ceci est l'histoire de sa vie.
Allez-y, hein,
je
apporte le reste. Hein.
Je mange, moi je veux trinquer avec vous.
Ah bon, vous voulez trinquer? Alors qu'est-ce qu'on mange? On mange 2-3 petits trucs et puis j'apporte le reste. Ça, vous connaissez ça?
Oui, j'ai goûté.
Ah, vous avez goûté?
Oui, j'ai goûté.
Ah bon, c'est bien. Parce que l'autre fois, je crois que j'en avais pas, je vous avais mis des petits maïs.
Alors
on trinque. Allez.
Doucement. À la vôtre.
À la vôtre.
Ça va la santé d'ailleurs?
Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Là.
Bah oui, je trouve que vous allez
des fois,
en forme.
Oui, je suis en forme, tout le monde me le dit. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je ne dis pas pourvu que ça dure, parce que moi je suis pour l'euthanasie.
Ah oui, mais attendez, on ne va pas euthanasier quelqu'un qui est en pleine
forme. Ah bah oui, non. Oui, mais moi je voudrais qu'on choisisse soi-même, même quand on est en bonne santé.
Vous voudriez ça?
Moi j'ai vu un film, si vous avez l'occasion dans votre vidéo de voir le film Soleil Vert. Avec Charlton Heston. C'était un film, c'est le futur qui nous faisait voir. Hein? Mais il nous rattrape. Hein? Ce qui est dans le temps, qu'on nous avait prévu, les sous-marins et tout ça, après c'est arrivé. Bon. Ben là, c'est pareil. Et là, dans ce film, on choisissait soi-même quand on sentait qu'on était fatigué et tout, et on s'en allait d'une façon admirable. Ça m'est resté, vous ne pouvez pas savoir. Ah, je vais chercher la suite. Alors là, elle avait 55 ans. C'est la première fois qu'on a été à la montagne, au col de l'Iseran. Elle avait voulu ce gilet. Elle adorait le bleu. Et là, elle avait 75 ans.
20 ans après.
Ouais. Ouais.
C'est marrant, on dirait qu'elle n'a pas bougé.
Ben, je vais vous dire une chose. La vieillesse, elle est arrivée quand elle a été prête à mourir, Yvonne. C'est bizarre, hein? Elle faisait très jeune. Oui. Là, je l'ai rattrapée au moment de mourir. C'est incroyable. Tout le monde adorait Yvonne. Mieux que moi.
Pourquoi mieux
que parce que moi, j'ai un caractère un peu... Un peu dur, même. Mais elle, elle était très douce, très... Quoique je l'ai vue des fois en colère à l'usine, elle claquait le beignet aux bonnes femmes. Hein.
Ouais, ouais, elle s'est battée?
Ah oui, moi je me suis battue au boulot aussi. Hein. Ah, bah oui. On peut dire qu'on s'est battu pour le travail, nous, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Parce que vous savez, j'étais très costaude, moi. Hein. Et la bonne femme de 85 kilos, elle était par terre. Hein. La première fois, on nous a pas foutu à la porte chez Citroën, on était des bonnes ouvrières, moi. On ne m'a pas fichu à la porte, puis la bonne femme non plus. Mais la deuxième fois, je me suis battue une autre fois, ils ont voulu me muter, pas me mettre à la porte, mais j'étais Gennevilliers et Anières, c'est à côté, vous voyez. C'est juste un petit chemin. Ils ont voulu me mettre, j'ai dit non, je ne vais pas muter, alors je vais voir Yvonne, on était toujours ensemble. Alors je vais voir, on veut me muter là-bas. Quoi? On veut me muter? Alors enlevé son gros tablier en sac, on avait des tabliers en sac, on était plein d'huile, hein. Je suis trop haine. Tout, allez hop. Il y a 50 ans, on est là, non, 7 ans, de 58 à 65. Allez hop, on s'en va. Il y avait du boulot à gogo, on a fait 13 places dans notre vie. Alors. On a travaillé très dur. Quand on était chez Citroën, on prenait à 5h30 le matin, le premier métro, pour être à Gennevilliers à 6h30. Hein. Et bien, on changeait à Barbès. Et on prenait le bus à Porte de Clignancourt. Hein. On travaillait très dur, il fallait arriver à l'heure, autrement les portes étaient fermées, vous ne rentrez pas. Hein. Hein? C'était très très dur. Et en équipe, 48 heures. Hein? On travaillait le samedi. Et s'il y avait eu un problème d'électricité ou autre chose, on venait le dimanche. On nous a transportés des fois dans des camions pleins d'huile. On nous attendait à la porte de Clignancourt pour nous emmener à Gennevilliers, qu'il n'y avait pas de bus, qu'il y avait les grèves. Hein? Ouais. C'était très dur, vous savez. On n'était pas dans les bureaux, nous, on était sur les machines. Hein. Moi, j'ai travaillé à Clichy chez Citroën aussi. Je suis restée que 3 mois. Parce que je travaillais toute seule et Yvonne, que je travaillais en équipe, ça ne lui plaisait pas. J'ai travaillé 3 mois sur des grandes presses. J'étais dans le groupe mix hommes et femmes, parce qu'il y avait les groupes de femmes, les groupes d'hommes, qui étaient très très durs. Mais moi, j'étais dans un groupe mix. Ben, croyez-moi, c'était dur aussi dans les presses. Hein. Des presses qui pèsent des tonnes. Ça, je ne dis pas de mettre votre main dessous. Hein. Puis après, on était aussi sur des grandes machines, sur des rectifieuses, des perceuses, des... tout un tas de trucs. Hein. Yvonne, un jour, elle était en vacances, ils n'en revenaient pas là-bas. Parce que si vous attendez le régleur, vous ne faites pas votre bonnet. S'il y a un petit pépin dans votre machine, il y a des régleurs. Hein. Alors Yvonne continue à travailler, elle est arrivée en Charente, elle avait plein de cloques de brûlures sur la gorge. Parce que les copeaux, ils avaient sauté dessus, qu'elle continuait à travailler, ils n'en revenaient pas. Il y a des gens qui ont été scalpés sur les machines. Moi, je n'ai jamais vu, mais je l'ai su. Ils ont été scalpés. C'est pour ça qu'il fallait mettre des bonnets. C'est pour ça qu'on avait les cheveux courts.
Et 68, comment vous l'avez vécu, vous ?
Ben 68, alors nous, ça a été rigolo, 68. Parce que tous les jours, on ne savait pas que ça allait durer un mois. Tous les jours, vous voyez une fenêtre qui s'ouvrait et les gens commençaient à peindre.
Comment
ça,
à peindre quoi?
Eh bien, ils peignaient leurs affaires, leur logement, ils n'avaient rien à foutre. Pendant un mois, ils peignaient leur logement. Tiens, encore une... Tata. Et puis nous, on s'est mis à faire pareil sur le tard. Quand ça a fini la grève, on n'avait pas fini. Parce qu'on le faisait toute seule. Hein. Moi, je m'en ai fait des plafonds. Hein. Puis Vovona savait très bien peindre, elle. Moi, les plafonds, j'étais grande, je faisais au rouleau. Elle allait mieux le pinceau. Elle peignait mieux que les peintres, hein. Faut voir, elle a des machins tout coudés, je les ai encore, les pinceaux. Nous, tous les 4 ans, on changeait de papier de peintre. J'ai toutes les photos, moi. Hein. Ah ouais.
C'est chouette.
Mais là, maintenant, depuis qu'on était vieille, on le faisait faire. Alors, la dernière fois, là, il y a plus de 10 ans que c'est fait. L'autre, il y avait 8 ans avant. Et après, quand on a eu une soixantaine d'années, même un peu avant, on le faisait plus. Mais avant, on le faisait tous les 4 ans. Hein. J'ai tous les papiers, j'ai toutes les photos. Et puis le meuble, c'est pareil. Ici, on a changé 2 fois de meuble, on avait du moderne avant. Dans la cuisine, pareil. C'est ma deuxième cuisine, ça. Parce que les appartements, ici, c'est de 32, comme moi. Et dans la rue du Rivasselon, c'est de 1930, comme Yvonne. Vous voyez? Alors, on connaît le nom des trucs. Hein. Mais les propriétaires, avant, c'était autre chose. Maintenant, il n'y a que des locataires.
Hein, moi, mes parents étaient locataires, faisaient toujours attention à ce qu'ils avaient. Maintenant, ils s'en foutent. Avant, il y avait des copropriétaires. Quand vous faisiez livrer un meuble, ils étaient derrière le livreur pour voir s'il n'avait pas égratigné l'escalier. Hein. Même là, il dit, moi, c'est lui qui m'a livré le meuble au début, avant. Hein. Les propriétaires faisaient attention, c'est normal, c'est de l'argent. Maintenant, ils s'en foutent, faut voir comment. Moi, j'ai honte. Hein. Ouais. Moi, j'ai honte d'habiter dans cet immeuble qui est dégueulasse. Hein.
Vous m'avez dit.
Ah, moi, je vous le dis, moi, j'ai honte. Hein. Je suis qu'une petite ouvrière, mais j'ai honte. Ce que je trouve, c'est que... Vous pensez, nous, on a fait 13 ans d'hôtel. Imaginez-vous comment qu'on était contente quand on a pu acheter là. Imaginez-vous. Moi, j'avais des copines qui venaient de chez Citroën. Elles ont dit, t'es dans un immeuble bourgeois. Je dis, faut pas exagérer, c'est de la brique rouge. C'est ouvrier, je suis pas dans de la pierre de taille. Hein? Bon, elles avaient acheté à Stein. Hein? Bon, pareil. Elles étaient deux filles aussi, vivant ensemble. Bon. Et puis, j'avais un autre couple aussi, à Joinville-le-Pont. Qui vivaient ensemble aussi, avec une charentaise d'ailleurs. Hein? Alors non, mais moi j'ai honte, je suis qu'une ouvrière, j'ai honte, heureusement j'ai pas beaucoup de monde qui vient là. Hein? Vous l'avez connue vraiment Yvonne, vous?
Non,
vous l'avez pas connue du tout?
Moi je suis arrivée ici en 2013.
Ah ben oui d'accord, parce que les dates, moi c'est... Ça fout le camp après les dates. Hein? Là, vous voyez, alors est-ce qu'elle adorait? Elle avait caméra, appareil photo et tout. Elle avait des belles caméras. Hein? Mmh. Ah ouais, oui, elle avait tout. Elle adorait ça. Mmh. Et là, elle est bien là au bord du lac, là.
C'est super.
Yvonne, elle avait un corps très féminin et c'est elle qui avait un caractère de garçon. Et moi qui ai un corps plutôt garçon, c'est moi la fille. Mmh. Comprenez quelque chose, la nature n'est pas bien faite. Hein? Non, elle n'est pas bien faite. Hein? Elle était toute menue, elle faisait quoi, 42 kilos, Yvonne? Toute menue. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous croyez à la réincarnation?
Un peu.
On ne peut pas parler de ça avec tout le monde.
Oui.
Moi, j'avais une vieille dame à l'hôtel. Elle avait mon âge quand j'étais à l'hôtel. Disiez-vous, vous êtes déjà venue sur la Terre. Mais elle, c'est la première fois qu'elle vient. Hein? Et j'y crois. Et j'y crois. Parce qu'il y a des choses, des fois, que je vois, que je pense, je dis où tu les as prises. Je connais la vie de mes parents, comment j'ai été élevée. Eh bien, j'y crois, la réincarnation, moi. Et je me demande tous les jours au ciel, je ne suis pas une grande croyante, je ne sais pas si c'est la deuxième fois que je viens, mais surtout, je ne veux pas qu'il y en ait trois. Ah non, non, non.
Pourquoi?
Un petit coup?
Mon ancienne voisine vit depuis 1967 dans un appartement au 8e étage d'un immeuble de briques rouges dans le 20e arrondissement de Paris. Elle m'a offert du Porto, m'a fait découvrir Mick Michel et m'a montré l'album photo qu'elle veut avoir auprès d'elle dans sa tombe, où depuis plus de 10 ans est enterrée sa compagne. Ceci est l'histoire de sa vie.
J'ai pas été malheureuse dans ma vie. J'étais fille unique, j'étais très gâtée malgré la guerre et tout, bon passons. J'étais heureuse avec Yvonne, mais ça ne me dit plus rien de revenir, vous voyez? Non, rien du tout.
Pourquoi?
Ben, je ne sais pas, c'est pas... C'est pas plus que ça, quoi. Regardez, j'ai perdu Yvonne. Bon, vous me direz, elle avait 80 ans. Mais elle a souffert, hein. Elle avait un cancer à la vésicule biliaire. Elle s'est fait soigner pendant 30 ans chez un docteur. Vous croyez qu'il l'a vu, qu'elle avait quelque chose? Elle, au fond, était toujours en train de lui faire comme ça, là. Hein? Hein? Franchement? Ben, elle avait 80 ans, on me dirait. Dans le temps, les gens mouraient beaucoup à 80 ans. Mais enfin, bon. Non. C'est horrible. Et c'est marrant, Yvonne n'était pas du tout comme moi, elle était une enfant. Elle m'a jamais dit, tu vas rester toute seule, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je lui aurais dit ça si j'allais partir, j'aurais donné des conseils, vous voyez? Non, pas elle. C'était une enfant.
Elle a dit quoi?
Elle ne m'a jamais rien dit, je vais partir, comment tu vas faire, non. Elle savait de quoi j'étais capable, c'est sûr. Mais bon, c'est dur, vous savez.
Ça a dû être très
parce qu'ici, tout le monde connaissait Yvonne, mais moi, on ne me connaît que depuis qu'elle est morte. Hein. Ils me l'ont dit. Hein. Oui. Elle était très populaire, Yvonne. Elle parlait à tout le monde et tout. C'est elle qui faisait toutes les courses. Mais moi, on ne me connaissait pas. Pierre Comart, d'abord, ils m'ont dit.
Et quand elle est partie, vous avez...
Ben, j'ai eu beaucoup de chagrin, d'abord. Oui. D'abord, tous les deux jours, je suis au cimetière, vous savez. Je vais porter des fleurs hier encore. Mais il y a ma place, hein. Tout est...
C'est vrai?
Oui, ben, il y a tout, là.
Vous allez être enterré à côté d'elle?
Ah oui. Oui, j'ai fait creuser pour et tout. Hein. Ah oui.
Ça fait quoi de savoir où vous allez être enterré?
Hein?
Ça fait quoi de savoir où vous allez être enterré?
Que je vais être là?
Oui.
Ah ben, ça fait plaisir. Ben, pourquoi? Faut bien être quelque part. Quand ma mère a fait creuser, bien avant qu'ils meurent, mes parents, un cimetière de campagne, parce qu'ils s'étaient retirés à la campagne quand ils ont été en retraite. Hein. Autrement, ils étaient à Sainte. Il y a 26 000 habitants à Sainte. Et elle me dit, je fais creuser, est-ce que tu veux que je creuse pour toi? Mais avant que... au moins 5 ans avant qu'ils meurent. J'ai dit, oui, fais creuser pour moi. Mais oui, mais manque de peau, c'est que Yvonne, elle est là. Voilà. Il y a déjà mon nom qui est marqué dessus, moi.
C'est vrai?
Oui. Mais ouais.
Il y a le nom d'Yvonne et le vôtre.
Il y a Yvonne et puis il y a mon nom. Mmh. Mmh. Sauf les années, évidemment.
Oui.
Mais vous savez, moi, je voudrais pas... Moi, maman, elle est morte à 91 ans. Mmh. Elle est morte à l'hôpital. Je ne voudrais pas aller si loin. Hein. Mmh. Moi, j'ai 87. Hein. Mmh. Oh non. Mmh. Non. Moi, je suis pour l'euthanasie. Mmh. On ne doit pas l'obliger, on est libre, mais moi je suis pour l'euthanasie en vente libre. Quand on en a marre, on en a marre, et puis c'est tout. Mais moi je suis prête à la prendre. Hein. Moi je trouve que c'est mieux de s'en aller en bonne santé que de s'en aller comme un déchet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu spéciale, ça je le sais. Hein? Non, franchement. Hein? Les gens s'en vont encore... On est moderne, on est dans le progrès, ils s'en vont encore dans de drôles de conditions. Moi je suis pas d'accord, hein. Non, du tout.
Je veux pas vous embêter.
Vous êtes de quel signe?
Sagittaire.
C'est quel mois ça?
Décembre.
Décembre? Ouais. Ah, vous êtes né l'hiver, vous? Ouais. Moi aussi, mais février.
Février.
Donc, du Verseau.
Verseau. D'accord.
C'est un signe de garçon, hein.
C'était il n'y a pas longtemps, votre anniversaire?
Ben, le 16 février.
Ah, c'est le jour de ma fête.
C'est bizarre, hein.
Bon, moi, je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Oh, ben, vous pouvez rester, hein.
C'est vrai?
Oh, ben, je comprends, vous ne me dérangez pas du tout. Vous voulez pas boire un coup?
Le dernier. Bernadette, le dernier.
Eh bien, comme vous voulez, moi je force personne.
Oui, mais sauf que vous n'arrêtez pas de me poser la question. Merci.
Ah, comme ça alors.
C'est très bien.
Allez.
Vous voyez une carte comme ça ici?
Ça, c'est Yvonne qui m'a donné ça, je ne vais pas vous la prise. Elle m'avait payé une... Elle avait été en Espagne avec sa famille, je crois, une fois. Elle m'avait apporté une jolie poupée aussi. Tout en mauve, comme ça, la danseuse, vous voyez. Et après, ça c'est. Après, la poussière, je l'ai jetée, quoi.
Elles sont très belles, ces photos.
Ouais, elle savait prendre des photos. Hein. Mais des fois, c'est moi qui lui disais, regarde là-bas. Regarde comme c'est beau. Alors, elle m'écoutait quand même. Ouais. Alors ça, j'avais voulu qu'elle me le prenne, c'est à la montagne. Parce que j'ai dit, moi, j'ai vu la Vierge toute seule. Jésus tout seul, je ne les ai jamais vus en couple. Et là, on a tombé, il y avait le bébé avec. Hein, c'est incroyable, hein. Jamais j'avais vu ça, moi. Ça, c'était en Charente. Dans la maison de campagne d'un neveu à Yvonne.
Vous êtes toutes les deux
croyantes. Ah ben alors là,
vous êtes toutes les deux croyantes.
Ah oui, elle était très croyante, Yvonne. Hein. Moi maintenant, j'y vais de temps en temps faire une petite prière, me faire brûler une bougie. Un Jourdain à l'église Notre-Dame de Lourdes, je ne sais pas si vous la connaissez.
Il est là, dans le coin de Rue Borrego.
Je l'aime bien.
Et là, les petits trucs qu'il y a dedans ?
Ah, les petits trucs. Là, vous allez connaître tous les secrets. Parce que quand vous viendrez sur la tombe...
Faut que je sache qu'il y a dedans.
Hein. Ben, vous allez le savoir. Est-ce que vous avez entendu parler de Mick Michel, des voix ?
Mick Michel ? Non.
Une chanteuse des années...
53.
Qui a écrit « Ni toi, ni moi ». La chanson, là. Je l'ai faite graver sur ma tombe.
Non.
Mais oui. Mais je vais vous lire les paroles.
Oh, je veux bien.
Le vent, parce que j'étais une bonne chanteuse, moi. Le vent rencontre le moulin et la route, le chemin. Le torrent, c'est la rivière. Et toi, ce fut moi. Je sais, je complique ta vie. Tu vivais bien à l'abri des jalousies de la terre. Pourtant, me voilà. Ni toi, ni moi, chérie, n'y pouvons rien. L'amour est plus fort que nous, que la vie et la mort. Et c'est le destin, nous n'y pouvons rien. Mais un jour, peut-être lassé, tu tenteras d'effacer les raisons qui nous enchaînent. Hélas, quelle erreur! Tu comprendras qu'en vérité, il n'est pas de volonté qui puisse imposer silence à la voix d'un cœur. Ni toi, ni moi, chérie, n'y pouvons rien. L'amour est plus fort que nous, que la vie et la mort. Et c'est le destin, nous n'y pouvons rien, ni toi, ni moi. Alors la voix, elle n'est pas la même qu'avant.
Ah, c'est très
j'ai
joli.
Chanté dans les mariages, moi.
C'est très
alors
joli.
Ça, je l'ai fait, toutes les paroles que vous avez entendues, parce que Mick Michel, c'était une homosexuelle. Hein. Alors, c'était, elle était homosexuelle, elle a fait la... Elle était meneuse de revue à Paris. Vous le savez, ça ?
Non, pas du tout. Je ne connais pas Mick Michel.
Et alors, quand elle s'est retirée, je crois qu'elle vit encore, elle était de Vers-Lyon, elle est devenue sculptrice, j'ai vu de ces trucs, moi, sur des plaques d'aluminium, hein, ou de, comment, enfin, d'aluminium, c'est pas d'aluminium, celui qui brille, là, aidez-moi, qu'on ait les casseroles, pareil.
L'étain,
non, pas l'étain, l'inox.
L'inox, d'accord. Bon,
elle faisait des chevaux sauvages, tout un tas de trucs qui se vendaient, la peau des fesses. Hein, c'était quelqu'un. Eh bien, c'est une homosexuelle. Et quand elle a écrit cette chanson, c'est quand on s'est connus.
Ah, oh, 53.
Vous comprenez ?
Oui, je comprends.
Bon,
bien sûr.
C'est pour ça qu'elle est là-dedans, parce que comme ça ira dans, dans le trou, ça ira dans le trou. Ma chanson, mais sur la tombe. Alors, par contre, sur l'ordinateur, j'avais cherché ça. À l'époque, elle était pour une fille.
D'accord.
Et sur l'ordinateur, ils l'ont transformé comme un garçon. Parce qu'il y avait chérie E.
Ah,
et sur l'ordinateur, il y avait chérie I. Elle en a eu des amis, elle pourtant. Pourquoi me choisir moi, j'en sais rien. Je pense que j'avais d'extraordinaire.
Elle vous l'a jamais dit ?
Ah ben non, c'est bizarre la destinée, hein, quand même. Hein. Des fois j'y repense. Hein. Et pourquoi elle n'est pas arrivée avant que je me marie ? Ça aurait été aussi mieux. Il y avait que 2 ans que j'étais mariée, vous vous rendez compte ? Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui donne ses sentiments. Je suis plutôt froide comme fille. Ses sentiments comme ça, moi j'ai adoré mes parents, d'accord ? Yvonne aussi. Mais je suis pas pour... non. Je suis une fille unique, déjà, on est un peu spécial, je crois.
Peut-être.
Je sais pas. Moi, mon père, il voulait pas d'enfant. Je vous l'ai dit. Ma mère a été de l'assistance publique, et dit, moi, je veux quand même un enfant. Bon, elle me dit à ma mère, alors moi, je veux une fille costaude. Mais il l'a eu, parce que je ressemble à lui. J'ai rien de ma mère. ils étaient gentils, mes parents. J'y pense des fois, mon Dieu. J'ai eu des parents... Enfin, mon père était prisonnier 5 ans. J'étais quand même 5 ans toute seule avec maman. Hein. Ah ouais.
Bernadette, merci beaucoup pour ce partage. Merci de m'avoir montré ça. Et j'aimerais bien aller voir... j'aimerais bien aller voir Yvonne, effectivement.
Eh ben, un jour, vous viendrez, on ira, c'est à côté.
Ah bah avec plaisir.
Il y en a pour 5 minutes.
Avec plaisir.
Enfin, vers Yvonne, vous la verrez pas, elle est dans le trou.
Je sais, mais vous
avez... Et vous verrez sa tombe,
ouais.
Avec son petit poème que j'ai mis. Oui.
Le vent rencontre le moulin et la route, le chemin, le torrent, c'est la rivière. Et toi, ce fut moi.
C'était Vous vous souviendrez de moi. Une mini-série documentaire avec la parole, la voix et le porto de Bernadette. À la réalisation, Lucille Maria Bouillant. Au mixage, Clémence Kulik. À la musique, Donia et Mick Michel. Pour la version éditée, Yuri Martin Cabetiche. Merci à la Ligue pour leur soutien financier précieux. Merci à toutes les personnes proches et moins proches qui, depuis le début, m'ont encouragée, car elles veulent entendre cette histoire résonner. Merci à Maria pour tout ce qu'elle a fait et qu'elle continue à faire. Merci à Bernadette pour sa confiance. Ce documentaire est pour toutes celles et ceux qu'on entend peu.